Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des Chroniques de Gore, une saga de John Norman entamée en 1966, où se mêlent philosophie, érotisme et science-fiction. L'histoire suit principalement les aventures de Tarl Cabot sur Gore, une planète cachée du système solaire, surnommée Antiterre, qui est située sur la même orbite que la Terre, mais cachée derrière le Soleil. Gore est un lieu où se déroulent divers conflits, notamment en rapport avec des espèces aliens, les prêtres rois insectoïdes et les prédateurs couris aux énormes pinces. Une des raisons pour laquelle le livre est connu, c'est parce qu'il décrit une société très machiste où les femmes sont pour la plupart des esclaves. Et de ce fait, il a eu un impact sur certains membres de la communauté BDSM qui peuvent se nommer eux-mêmes goréens. Alors je précise tout de suite que je n'ai pas lu cette saga et que pour en parler, j'ai deux invités, Eric et Opal. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour à tous, donc moi c'est Eric, j'ai 57 ans. J'ai découvert Gore à travers l'Heroic Fantasy depuis une vingtaine d'années et c'est devenu un peu ma philosophie vis-à-vis de ma compagne Opal.
Bonjour, moi c'est Opal, j'ai découvert ce monde il y a 2 ans, vers mes 29 ans, et ça fait 2 ans que je vis avec mon mec.
Alors, je peux préciser qu'Opal, vous ne m'êtes pas inconnu, hein, puisque vous aviez accepté déjà il y a quelques mois que notre illustrateur s'inspire de votre portrait pour la réalisation de courtes vidéos promotionnelles dans le cadre de la sortie de notre roman, de notre double roman écrit avec Rose. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la nature de votre relation, en quelques mots ?
En quelques mots, nous sommes un couple goréen. C'est-à-dire que Opal est ma Kajira et je suis le maître d'Opal. Ça fait 2 ans que nous vivons H24 ensemble. Nous vivons parfaitement normalement.
D'accord.
Avec la notion de gore derrière.
D'accord. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas les Chroniques de Gore, les quelques mots que vous avez prononcés, goréen, Kajira, sont inconnus, mais on va en parler en détail pendant ce podcast. Alors, est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, nous dire un petit peu quand vous avez découvert et dans quelles circonstances vous avez découvert cette saga ?
Moi, personnellement, j'adore la science-fiction, l'heroic fantasy, et j'ai découvert la chronique de Gore à travers cela. C'est-à-dire que je ne suis pas venu pour autre chose, c'était vraiment pour de l'heroic fantasy, de la science-fiction. Et j'ai complètement adhéré à la façon d'être de Cabot, justement, sa façon de penser et tout.
Alors pour ma part, donc quand je me suis mis avec mon maître, il m'a parlé de ces livres-là, il m'a conseillé de lire, et quand j'ai lu le premier, je me suis retrouvée complètement dedans, et je lui ai demandé très peu de temps après pour devenir sa Kajira.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Opal en particulier, vous qui m'avez dit que le livre vous avait beaucoup plu, est-ce que vous pouvez nous parler, nous résumer un petit peu l'histoire, nous dire un petit peu ce qui se passe dans cette saga ?
Alors oui, bien sûr. Donc c'est l'histoire d'un terrien qui a été kidnappé et amené dans une cité du monde de Gore, donc qui s'appelle Koroba. C'est un monde qu'il découvre pour la première fois puisqu'il n'en avait jamais entendu parler. Et alors dedans, il a dû tout réapprendre à vivre comme un goréen, à apprendre la langue de là-bas, les coutumes. À travers les livres, à travers les ouvrages, on se rend compte de son évolution, qu'il il a découvert la soumission des esclaves de là-bas. Il a sa propre esclave. Il a découvert une esclave qui s'appelle Elisabeth Cardwell, donc dans le premier ouvrage. Il vient de la Terre également, qui a été kidnappée justement par les prêtres rois, qui a été amenée là-bas. Dans le 3, il va leur faire sa libre compagne et vouloir la ramener sur la Terre. Mais elle décide de rester elle-même sur le monde de Gore parce qu'elle se sentait plus libre que dans le monde terrien.
Alors effectivement, quand vous dites ça, on sent tout de suite un paradoxe, hein. C'est une esclave. D'ailleurs, elle, vous le dites vous-même, elle refuse ou elle refuse pas de devenir une libre femme, comme on l'appelle ?
Si, elle... comment ? Elle...
oui, elle refuse. Il y a une chose, c'est vrai que c'est un paradoxe, il y a une chose à comprendre, c'est que dans le monde de Gore, donc, il y a ce qu'on appelle les femmes libres et les Kajira. Une esclave, c'est le nom. Kesgra veut dire en coréen, je suis une esclave femelle exactement. Il y a moins de Kajira que de libres femmes. Les cités, par exemple, puisque tout se passe dans les cités ou dans les villages, il y a plus de femmes libres que de Kajira. On peut retrouver un parallèle avec un peu bah, le 18, le 17, le 17e et le 18e siècle dans les îles en France, Guadeloupe, Martinique et tout ça. C'est une relation très particulière qui est entre le maître et l'esclave. Au fil des livres, on voit qu'une chose, c'est que les maîtres tiennent énormément à leurs esclaves.
On va aborder le rôle de la,
Oui, plus tard.
oui, un peu plus tard dans le podcast, on va aborder le rôle de la femme, un petit peu la condition de la femme dans la société coréenne un peu plus tard, avec notamment effectivement la notion de Kajira. J'apprends quand même quelque chose, c'est que je pensais que l'essentiel des femmes dans les livres étaient des esclaves, mais a priori vous me dites que c'est pas le cas, la majorité des
Non, ce n'est
femmes.
pas du tout le cas, puisque
D'accord.
dans les livres, il y a même des femmes qui sont à la tête de cité. Il y a ce qu'on appelle des ubars, qui sont entre guillemets, les chefs d'une cité, les rois d'une cité, et il y a des femmes qui sont ubars elles-mêmes. La femme libre est beaucoup plus près, il y en a beaucoup plus que des simples Kajira. Et Kajira regroupe tout un ensemble en réalité, hein. Il ne faut pas voir des Kajira, vous avez de plusieurs sortes.
À ce que j'ai compris, Tarl Cabot, au début, il arrive sur Gor, bah, contraint, en fait, hein. Il a été enlevé, c'est ça? Et puis finalement, il se fait à ce monde.
Ben, il se fait à ce monde, pourquoi? Parce qu'il se retrouve lui-même sur Terre, c'est un humain, entre guillemets, classique, normal, comme tous les autres, comme
Il n'a pas
et
une vie
qui
trépidante, c'est ça?
il n'a pas une vie trépidante, c'est un humain ben, classique, hein, et il se retrouve sur Gor, où là, il se retrouve, entre guillemets, dans la caste des guerriers, où il a plus de, entre guillemets, ben, pour parler des Khajiits, il se retrouve avec des droits sur des personnes, des choses comme ça, qui... Même dans un humain classique, normal sur Terre, même de nos jours, dès que vous donnez du pouvoir à quelqu'un, il va aimer cela. C'est exactement ce qui se passe pour lui. Il se retrouve dans un monde bah, où il va avoir plein d'aventures, plein de choses. On peut faire un parallèle avec plusieurs livres de l'époque, hein. Il ne faut pas oublier que donc John Norman, il a écrit ça dans les années 60, la grande période de la SF, avec Asimov et tout ça.
On faisait un parallèle dans une discussion préparatoire tout à l'heure avec John Carter de Mars. Il me semblait avoir lu dans les pages Wikipédia qu'il s'en était inspiré.
John Carter, on retrouve un peu la même base. Un homme qui est projeté sur un monde, alors qui est, comme je dis, qui est projeté, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas enlevé par un vaisseau spatial ou quoi que ce soit. Il se retrouve projeté instantanément sur un autre monde inconnu, avec une autre façon de penser, une autre façon d'être, une façon plus médiévale. Si les gens regardaient, puisqu'il y a le livre John Carter, mais il y a aussi les livres, les films, excusez-moi, il y a aussi les films dont un qu'ils ont voulu en faire une saga, John Carter de Mars.
Un film qui est sorti il y a quoi, une dizaine d'années, c'était un flop de Disney d'ailleurs, il me semble qu'ils voulaient en
Ouais, c'est
faire
ça.
une... Oui.
C'est ça, exactement. Et on retrouve un peu le même parallèle. La différence, c'est que là, bah, de John Carter, il y a beaucoup moins, c'est moins développé. Gore, d'ailleurs, si on lit Gore, dans le premier roman, on retrouve vraiment parfaitement John Carter. C'est exactement ça. Ça, c'est pour le premier roman. Et après, dans les suivants, tout est développé. La civilisation goréenne, la façon d'être, la façon de vivre. Mais au départ, c'est exactement ça. Si nous regardons le premier, voire les deux premiers à la limite de Norman, on retrouve complètement John Carter qui est de l'heroic fantasy, hein.
Bon, j'imagine qu'il vit, on parlait de roman de gare, hein, tout à l'heure, on est dans un roman qui n'a pas forcément une qualité littéraire extraordinaire. C'est pas pour cette raison-là qu'on en a parlé, en fait. Enfin, vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose de ça?
Tout à fait. Il ne faut pas oublier que John Norman, quand il a écrit les Chroniques de Gore, c'était ce qu'on appelait à l'époque des romans de guerre. Les romans de guerre, ça servait à quoi? À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision comme maintenant. Donc les gens, quand ils avaient des longs voyages en train, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient des romans, des livres dans la gare pour pouvoir lire dans le train. Donc c'était des livres faciles à lire. Et on retrouve bien cela d'ailleurs dans John Norman, dans les Chroniques de Gore. Les premiers sont très faciles à lire, ils sont rapides à lire, ils sont comme je vous l'ai dit, ils sont pas tellement développés. C'est vraiment centré sur le personne. Dans la suite, c'est un peu plus développé, c'est beaucoup plus étoffé toute la philosophie, tout en étant toujours des romans relativement faciles à lire, mais ça fait vraiment une suite.
Et d'ailleurs, c'est une constante qu'on retrouve dans un certain nombre de romans de gare. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les gares, on trouvait beaucoup de romans type SAS, dans lesquels il y avait très souvent une part d'érotisme débridé.
Dans les SAS, dans les... oui, à l'époque, dans les romans de gare, même en France, on trouve bien sûr, il y avait les SAS, il y avait dans tous les romans comme ça, policiers à l'époque, on retrouvait beaucoup d'érotisme débridé, oui, totalement, y compris dans 007, James Bond. Puis en gardien, on
Oui,
retrouve aussi de l'érotisme. Hein,
clairement.
Ouais.
Avec d'ailleurs une place de la femme qui est critiquable aussi au regard de
Nous...
notre société
Mais
d'aujourd'hui,
tout à
2020.
fait. Si nous regardons cela, il faut vraiment remettre la chose dans son contexte. Donc, John Norman a écrit ça dans les années donc 60, 66, comme vous l'avez dit, le premier. Dans les années 60, comme en France, une femme n'avait pas le droit de posséder son propre compte bancaire d'elle-même. Il fallait qu'elle passe par l'autorisation de son père ou de son mari. Et ça date pas de si vieux que ça, 1960. La libération de la femme, en réalité, est très tardive, années 60, dans les années 70.
Il me semble que c'est 1975, l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire.
À peu près, ouais, ça doit être dans ces eaux-là, oui. Et les gens l'oublient, maintenant, c'est sorti du, voilà, maintenant, c'est devenu normal qu'une femme ait son, ce qui est normal, hein, attention. C'est parfaitement normal, hein. Je suis coréen, mais je trouve ça parfaitement normal. Je suis pour l'égalité des sexes, étrangement.
Ce qui peut effectivement peut paraître étrange. On va aborder un peu maintenant la condition de la femme dans la société goréenne, hein, dans les romans de John Norman, et en particulier, on les appelle, les esclaves sont appelés Kajira. Et je voudrais rappeler quelque chose que j'ai lu, hein, en préparant ce podcast. John Norman s'est très probablement inspiré du roman Histoire d'eau, qui est sorti en 1954 et qui a eu un grand succès, même outre-Atlantique. Il paraît qu'on retrouve beaucoup de similitudes entre la condition de la femme décrite dans les chroniques de Gore et Histoire d'eau.
Personnellement, j'ai lu les deux. Hein. On retrouve certaines choses, mais en réalité, pas tant que cela. On va retrouver le marquage au fer rouge, on va retrouver certaines choses, mais il y a une chose à pas oublier. Par exemple, je parlais du marquage au fer rouge. Faut pas oublier qu'au XVIIe, XVIe siècle, c'était déjà la façon, et même l'époque de Louis XIV, c'était la façon dont on marquait les personnes. Une femme qui faisait un adultère ou qui, au XVIIe, sous Louis XIV, se retrouver avec la fleur, ou qui faisait une trahison, se retrouver avec la fleur de lys sur l'épaule, marquée au fer rouge. Donc, on retrouve des choses qui, entre guillemets, paraissaient presque normales
Pour l'époque.
pour l'époque. Donc, on va retrouver certaines choses à ce niveau-là. Est-ce que cela veut dire qu'il s'est vraiment inspiré? Il n'y a que lui qui pourrait vraiment répondre de ça. Moi, à part l'histoire du marquage de fer rouge, est-ce que je retrouve beaucoup de points communs entre Histoire d'eau et Norman? Pas vraiment. Si,
D'accord.
peut-être dans une autre chose, c'est le lien qui unit justement chez John Norman, la Kajira, et dans Histoire d'eau, l'esclave, qui la lie à son maître, à son propriétaire. C'est pas un lien de c'est un lien de subordination, mais consenti.
Alors
Parce qu'il ne
précisément,
faut
ce
pas
qui est...
oublier une chose, je voudrais juste préciser une chose, c'est que même chez John Norman, les femmes consentent à devenir des Kajira. Parce que c'est dans leur société. Elles consentent à.
Alors c'est précisément ce que je voulais qu'on aborde maintenant, préciser un petit peu qu'est-ce qu'une Kajira, en quoi leur rôle s'apparente à de l'esclavage, enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Bien sûr. Dans John Norman, donc, nous retrouvons les femmes libres, qui sont les femmes, entre guillemets, normales, des épouses. Elles peuvent même être donc chef responsable d'une cité. Et les Kajira. Les Kajira englobent elles-mêmes plusieurs catégories. Nous avons ce qu'on appelle les Kajira de plaisir, ce qu'on appelle aussi les Kajira Tower, puisque la façon de vivre goréenne, c'est qu'ils vivent dans des tours. Et ce qu'on appelle une Kajira Tower, c'est une femme qui va s'occuper du ménage, de l'entretien de la tour et tout ça. On retrouve des Kajira de taverne qui, elles, font le service dans les tavernes. Il y a vraiment énormément de catégories de Kajira. Il y a le côté épouse, qui est entre guillemets laissé aux libres femmes, et le côté entre guillemets tout ce qui est entretien, tout ce qui est qui pourrait rabaisser la femme, qui est laissée aux Kajira. Et
D'accord.
vous avez donc la Kajira que les gens retiennent le plus en lisant John Norman, qui est la Kajira de plaisir, qui est Là, la partie un peu plus érotique de l'histoire, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des Khajiits du tout érotiques dans chez John Norman. Pour retrouver cela, par exemple, il existe donc des postures, et il existe des postures donc de la Khajiit de plaisir qui est une posture ouverte, qu'on appelle le nadu, et la Khajiit Tower a la même posture, mais inversée, entre guillemets, où là, c'est plutôt fermé parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle.
Alors quand vous parlez ouverte, hein, là on parle de positions qui s'apparentent un peu à des positions de soumission, en fait, c'est ça?
Mais totalement,
Voilà, et quand vous
totalement.
parlez de position ouverte, pour être un peu plus précis, que les auditeurs comprennent, il s'agit de la position des cuisses ouverte ou pas.
Des cuisses et des mains. Le nadu pour une cagera de plaisir, les paumes de main sont vers le haut, en signe d'ouverture. En signe,
D'accord.
voilà, je suis ouvert pour vous. Si on regarde bien, d'ailleurs, regardez la plupart des tableaux de l'époque, où quand les gens priaient Dieu, ils ont la paume vers Dieu. Et pour une cagera, son maître est un peu son Dieu.
D'accord, j'avais du mal à voir le parallèle, mais ça y est, je viens de comprendre.
Et là, on retrouve la même chose donc dans la Khajiit Plaisir qui a la paume ouverte et les Khajiit Tower par exemple qui ont les paumes vers les cuisses donc entre guillemets signe de fermeture. Je suis une Khajiit mais je ne suis pas là pour le sexe principalement.
Parce que c'est elle qui le choisit ou parce que c'est le
Non,
rôle qu'on lui a attribué dans l'œuvre?
le
D'accord.
rôle qui est attribué. Et étrangement, d'ailleurs, dans le monde coréen, la cagère de plaisir, c'est peut-être le summum. C'est-à-dire que toutes aspirent à devenir une cagère de plaisir. À travers le lien qui les unit à leur maître, à leur façon d'être, leur liberté, entre guillemets, elles peuvent, étrangement, elles sont très libres en tant qu'esclaves. Elles peuvent se permettre, par exemple, à répondre à un homme libre. Si son maître, tant que son maître ne lui dit pas non, ne lui donne pas la consigne, elle va pouvoir se permettre d'envoyer paître un homme libre, chose
D'accord.
qu'une femme libre ne fera pas.
On sent une description dans l'œuvre d'une certaine, on sent dans l'œuvre, oui, la description d'une certaine fierté d'esclave, comme on peut
Totalement.
retrouver d'ailleurs dans le monde BDSM une certaine fierté, des soumises.
Mais c'est exactement cela. C'est-à-dire que les d'ailleurs, les Coréens aiment que les Khajiits aient du caractère. Ils ne veulent pas d'une Khajiit, entre guillemets, bête et méchante qui ne fait qu'obéir. Ça les intéresse pas.
C'est ce qui les attire,
Voilà.
justement, c'est leur caractère. Le fait de pouvoir essayer de les dominer ou de les dompter plus facilement. Ils
D'accord.
essayent un peu de casser leur caractère en les soumettant, mais ce que les Khajiits, elles aiment aussi, c'est de pouvoir séduire les hommes. Elles aiment jouer de leur corps, et on reprend souvent, et on en entend souvent parler aussi, ce sont les danses coréennes, que justement les Khajiits apprennent, et à travers ces danses-là, elles peuvent exprimer toutes leurs émotions. Donc leur colère, leur rage, elles peuvent aller provoquer justement certains, les maîtres, les hommes qui sont là, leur dire « Ah bah vous mourrez, mais vous ne mourrez pas ». Et c'est de ce plaisir-là qu'elles ont vraiment... On les retrouve souvent dans les ouvrages Les Esclaves de Gore, donc qui est le septième livre, où là, qui a été écrit par une esclave, donc une terrienne, pareil, qui a été amenée sur la Terre, qui a été amenée sur
Quand
Gore, oui.
vous dites qu'elle a été écrite, la narration est faite du point de vue de cette femme, c'est ça?
Voilà. Où c'est une dame qui est riche, qui est belle, qui déteste les hommes, qui déteste même la population en elle-même, donc sur Terre. Et elle a été amenée dans un seul but, donc par les prêtres rois, c'était pour tuer Tal Cabot, qui dans cet ouvrage-là se faisait appeler Bostre de Porcar. Et du coup, on la voit vraiment toute sa transition. Elle se croit supérieure surtout, qu'elle est la plus belle de toutes, que les autres sont stupides, qu'elles ne valent rien, de façon qu'elles ce sont des esclaves et qu'elles pas. Et au final, en lisant le livre, on se rend compte, et elle le décrit d'elle-même, qu'elle commence à comprendre un peu l'esclavage, qu'elle elle-même veut commencer à séduire les hommes, à se sentir belle, à sentir ce pouvoir de l'esclave et de la séduction en fait envers les autres. Enfin, elle va arriver dans un groupe où elle a été kidnappée. Enfin, elle va être amenée là-bas, elle va être mise comme une esclave donc domestique, où elle va faire les tâches du linge, elle va nettoyer, va faire la cuisine, et on la surprend l'envie de faire partie de ces femmes de plaisir-là, à pouvoir être amenée dans la tente de son maître et pouvoir la servir comme elle le voudrait.
Il y a une chose à voir, c'est que si on regarde bien, on parlait tout à l'heure de la libération de la femme. Quand le début de la libération de la femme, ça a été représenté comment? La mini-jupe, par exemple. Se montrer, voilà, oui, je suis belle, je suis désirable, et je peux me montrer aux hommes, et vous pouvez pas m'avoir malgré tout. On peut retrouver un peu ce parallèle. Je sais pas si vous
D'accord.
voyez ce que je veux dire.
Alors moi, ça m'inspire quand même une réaction. C'est un bon fantasme masculin où je ne m'y connais pas, malgré tout.
Mais c'est exactement cela. Mais montrez-moi un seul homme qui ne rêve pas d'avoir une femme avec qui, bah voilà, entre guillemets, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est le sentiment de pouvoir qu'on a sur quelqu'un d'autre, que n'importe qui de
Très
nos
clairement,
jours
très
peut
clairement, mais
ressentir.
c'est ce que ça m'inspirait à l'écouter, ce qui n'est pas une critique d'ailleurs en soi, hein.
Non, non, mais c'est
Je
exactement
suis
cela, hein.
moi-même auteur, c'est un livre, il écrit ce qu'il veut, Norman, il n'y a pas de souci. Mais je peux comprendre, avec les années passant, les décennies passant et la révolution sexuelle, en tout cas les changements des mœurs, que c'est pu engendrer de telles critiques.
Mais totalement. Bah, il arrivait un moment, donc premier roman, comme vous l'avez dit, 66, Libération de la femme dans les années 70, 75, 80. Oui, donc il a été très critiqué. Mais en réalité, si on regarde bien, on va retrouver certaines choses, comme je vous l'ai dit, l'apparition de la mini-jupe, la façon de pouvoir s'habiller pour une femme normale, comme elle a envie de le faire. Elle a le droit, comme on dit, de vouloir plaire à un homme. Et on va retrouver ça un peu dans John Norman, mais au niveau des Kajira. Où ce qu'on appelle les libres femmes, elles sont plutôt ont des couches énormes de vêtements sur elles pour pas montrer leur corps.
Donc quelque part, il s'est un petit peu inspiré de la société dans laquelle il vivait.
Dans un sens, on retrouve un peu cette évolution, oui, dedans. Alors le gore, il faut le lire. Si on le lit bêtement, on va pas le deviner tout ça. Après, faut rentrer un peu plus profondément dans l'histoire, dans les liens, dans la façon d'être et le reporter à son époque. Vous parliez de John Carter. John Carter, c'est pareil. Si on lit bien John Carter, le rôle de la femme n'est pas fantastique, hein.
Alors,
On retrouve ça dans
je l'ai
beaucoup
pas
de romans.
lu. On parlait du film tout à l'heure de
Oui.
Disney qui a fait un flop. Je n'ai vu que celui-là. Et puis j'ai compris le flop d'ailleurs parce que moi qui aime la
Oui.
science-fiction, bon, à un moment on le voit faire des bonds de 10 mètres, on y croit encore, mais quand il fait des bonds d'un kilomètre, moi j'avoue j'ai lâché. Ça m'a
Alors, je vous
complètement.
rassure, dans Gore, on ne retrouve pas ça, hein. Dans Gore, il n'est pas plus puissant que les autres, hein. Il est plus puissant
D'accord.
par son entraînement, entre guillemets.
D'accord, oui,
Mais il
enfin,
n'a pas de super pouvoir.
ça reste, on va dire, un minimum crédible. Il n'a pas de, voilà, c'est pas un super-héros, quoi. D'accord.
Non, pas du tout. D'ailleurs, dans John Norman, c'est vraiment la description d'une autre façon, d'une autre civilisation. Un peu comme si quelqu'un, il y a 100 ou 200 ans, arrivait dans une tribu amazonienne ou voilà.
Alors, ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est un peu l'influence que ce livre a eue sur les pratiquants ou un certain nombre de communautés de pratiquants BDSM. Dans les discussions préparatoires qu'on a eues, on parlait notamment d'un certain nombre de manifestations de cet impact, notamment sur un réseau social, enfin un jeu qui avait une forme de réseau social qui n'est plus très connu aujourd'hui, mais qui était connu il y a quelques années, qui s'appelait Second Life. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
C'est toujours pareil. Dans les jeux, on a envie d'être supérieur aux autres. Donc, dans Second Life, on retrouve exactement cela, hein. Il y a une communauté goréenne qui est là, qui existe dans Second Life, mais qui est vraiment au niveau du jeu où l'homme est supérieur à la femme. On va retrouver certaines choses des romans, mais sans la partie érotique pure et dure.
Alors, excusez-moi, je vous interromps. Moi, je suis allé sur Second Life quelques jours, et effectivement, j'ai été visiter certaines des. Alors, je sais même plus trop comment ça s'appelle parce que j'ai vraiment pas très bien connu ce jeu, qui n'était pas vraiment un jeu d'ailleurs, hein, qui s'apparençait plus à une forme de monde
Un team amélioré.
en trois. Oui, voilà, c'était un peu ça, c'était un peu un monde en 3D où on construisait un petit peu ce qu'on voulait, il n'y avait pas vraiment de scénario, c'était pas un jeu, hein. Et on pouvait retrouver certaines de ces salles, si je peux appeler ça comme ça, où on voyait quand même des scènes d'orgie, quoi, en fait, où on reconnaissait très bien la patte
Ça.
BDSM, en tout cas la patte imaginaire BDSM.
Voilà, on est dans l'imaginaire total, mais le pouvoir, voilà, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux à une femme, qu'on retrouve malheureusement de nos jours beaucoup, hein. Regardez la façon de traiter de certains hommes leurs femmes, c'est voilà, je suis l'homme, toi t'es la femme, tu te tais. On va retrouver un peu ça. Dans Second Life, c'est vraiment bah oui, au départ c'est un jeu, mais il y a beaucoup de gens qui se projettent dedans, qui se projettent comme s'ils étaient.
C'est l'expression même du fantasme, j'ai envie de dire. Autant faire ça dans Second Life pour pas le faire dans la vie réelle. Quelque part, c'est pas forcément mauvais en soi, non?
Ça peut ne pas être mauvais, je suis d'accord avec vous, si on comprend les limites de Second Life, qui n'est que du ponctuel, qui n'est qu'un jeu, qui n'est qu'une imagination, donc entre guillemets, on peut être complètement débordé, un peu comme on lit un livre, d'ailleurs, comme dans un livre. Dans un livre, on peut être, on peut, qu'on, il n'y a, entre guillemets, il n'y a pas de limite dans un livre quand on écrit un livre. Vous êtes
Oui.
auteur, vous le savez. On crée son monde, on crée ses relations, on crée tout ce qu'on veut. Donc, dans Second Life, on va retrouver ça. Après, vous avez les pratiquants goréens dans le BDSM, qui eux sont plus dans le lien qui unit la Kajira à son maître, dans la façon d'être, dans les expressions, dans les postures.
Ce que vous voulez exprimer, c'est que dans Second Life, comme dans d'autres endroits, certaines personnes se prenaient un peu trop au sérieux.
Oui, totalement, totalement. Le truc à ne pas oublier à travers un écran, c'est que toutes les inhibitions disparaissent. Ce qu'on n'oserait pas faire dans le monde réel, on le fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes entre guillemets avec Internet en général. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre, on peut se permettre, on se sent assez fort pour insulter quelqu'un, pour le rabaisser, pour dire je suis meilleur. Vous voyez, ce qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours.
Ça, c'est les conséquences de l'anonymat.
De l'anonymat qu'on retrouve dans Second Life avec les Goréens. Vous ne voyez pas la personne en vrai. D'ailleurs, la personne que vous voyez à l'écran dans Second Life, qui est un personnage, la personne a pu se créer son personnage, donc elle n'est même pas comme ça dans la réalité.
Oui, bah, c'est pour ça qu'ils viennent là, hein. C'est pour jouer quelque part ce
Mais
jeu, hein.
totalement, totalement.
D'accord.
Vous parlez aussi que voilà, vous avez vu sur une des salles, par exemple, des orgies, c'est quelque chose que l'on ne retrouvera pas dans les livres de gore. Parce qu'il y a quand même le respect, même si ça reste une esclave, il y a quand même le respect derrière. Donc le maître qui voudra avoir du plaisir avec son esclave ne sera qu'avec une en chambre fermée ou en salle fermée, mais ce ne sera pas avec plusieurs d'un coup comme ça.
Dans les livres de John Norman, d'ailleurs, ce qui est plus décrit, plutôt que des scènes érotiques, c'est plutôt la façon de penser à ce moment-là. C'est le lien qui va unir les deux. Comme Opal disait, c'est dans une salle fermée. Il y a ce qu'on appelle il y a la bougie qui, quand un maître veut être avec sa Kajira, il met une bougie sur la fenêtre pour dire, venez pas me déranger, je suis avec elle. Nous sommes en occupés.
Et ce sera
D'accord.
pas fait, par exemple, au sol même. Il y aura des fourrures de l'amour. Voilà, c'est tout un petit rituel qui va faire que l'esclave va aller se donner, elle va aller se coucher d'elle-même sur les fourrures de l'amour en attendant que son maître vienne et lui donner du plaisir. Donc, c'est vraiment c'est imagé, mais ce n'est pas du tout comme ce conte-là, où là, c'est plus brut et je fais ce que je veux dans le jeu.
On n'a pas de description d'orgie, quoi. Il n'y a pas de partouze dans.
Ah non, pas du tout.
Aucunement dans John Norman, non, pas du tout. On peut les classer dans les romans à la limite érotiques, mais pas du tout dans les romans porno, hein. À la limite, on va retrouver un peu la même chose, comme je disais tout à l'heure, comme dans James Bond. Quand James Bond va prendre sa partenaire dans les bras et tout, vous voyez, on va retrouver cela, mais on va pas retrouver d'orgie, d'actes sexuels bêtes et méchants. D'ailleurs, dans John Norman, la Kajira, elle se donne. Le maître, il est là pour l'épanouir, pour la transcender. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que chez John Norman, une Kajira pour un maître, c'est entre guillemets ce qu'il y a de plus précieux. C'est la représentation qu'on peut avoir de lui à l'extérieur. Donc plus il va avoir une Kajira belle, bien tenue, entre guillemets en bon état, c'est-à-dire sans traces et tout ça, qui va être épanoui, plus sa notoriété sera grande.
Ils vont l'amener, par exemple, chez le médecin. Il y a des médecins aussi, donc sur Gore, ils vont l'amener chez le médecin pour voir qu'elle n'ait aucun. Si elle a été égratignée, si elle a une blessure, ils vont la soigner, ils vont mettre du baume, ils vont vraiment en prendre soin sur tous les aspects. Dans le livre que je suis en train de lire ici, donc dans Les Pirates de Gore, donc qui est le 8e, il y a une des esclaves, elle va porter une fleur jaune dans ses cheveux. Et cette fleur jaune, par exemple, cette fleur jaune-là, prévient le maître que elle veut plus avec, elle veut vraiment se donner et lui appartenir à 100%, puisque bon, comme on parle voilà des esclaves, on sait que elles peuvent être vendues aussi. Voilà, elles peuvent être vendues, elles peuvent être mises sur le marché, elles peuvent être marchandées, mais la fleur là prévient le maître que voilà, elle veut passer vraiment le reste de sa vie avec, quoi.
Question d'ailleurs, en parallèle de ça, les hommes mariés, engagés en couple dans le roman, ont-ils aussi en parallèle des Kajira?
Alors,
De plaisir, je veux dire, hein, de plaisir.
De plaisir, on peut le retrouver, mais c'est excessivement rare. Excessivement rare. Une chose à ne pas oublier non plus chez Gore, même si on ne le voit pas tellement apparaître, mais on en entend parler, il existe deux autres catégories d'esclaves qu'on appelle, par exemple, les Khajiris, qui sont pour les hommes. Il existe des hommes esclaves. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. C'est-à-dire que oui, bah, il parle beaucoup plus des femmes, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, donc comme je l'ai dit, c'était des romans de gare qui étaient surtout dans les trains, tout seuls, c'était des hommes d'affaires ou des représentants. Donc c'était plus écrit pour les hommes, mais on retrouve des Khajiris, donc des hommes esclaves. On va retrouver aussi, vous aviez parlé des prêtres rois. Les prêtres rois ont eux-mêmes leur propre catégorie d'esclaves qu'on appelle des mules, qui eux sont vraiment esclaves dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout exploités sexuellement, ils sont juste là, entre guillemets, comme force servile, exactement comme le XVIIe et XVIIIe siècle, les Noirs qui ont été envoyés dans les îles. C'est là pour couper la canne à sucre. Est-ce qu'on pourrait parler du lien qui unit, par exemple, parlez-moi, qui unit un maître goréen à sa cagira, et entre guillemets, le fantasme de la cagira sur beaucoup de gens dans le milieu du BDSM
Allez-y autant que vous voulez.
Bien sûr. Si on lit Gore vraiment, on va voir qu'il y a deux façons de le lire. Il y a la façon classique, bête et méchante, qu'on peut utiliser, où là on peut se dire oui, c'est une esclave, tout simplement. Et il y a la façon, on peut voir un peu plus loin, la chose qui unit le maître et l'esclave. On retrouve d'ailleurs beaucoup dans Gore, le maître qui est amoureux de son esclave. Le rôle de son maître, c'est vraiment d'épanouir l'esclave. C'est pas de la rendre, c'est pas de l'utiliser bêtement. Oui, entre guillemets, il va la plier à sa volonté, mais en la pliant à sa volonté, il va lui montrer qu'il tient à elle. On en revient toujours au parallèle des années 60, hein, c'est exactement cela. Hein. Et la Kajira, elle va, entre guillemets, jouer avec son maître. Elle va, quand elle aura envie, elle a le droit de faire des petits gestes, des mots. C'est pas un objet qu'on pose dans un coin.
En fait, elle a une personnalité et elle a le droit de l'exprimer.
Mais totalement, d'ailleurs, un Coréen n'aime que les. Que pour eux, lui, une Kajira doit avoir du caractère. Il doit pouvoir, entre guillemets, dans un sens, la mettre à sa main. Mais il n'acceptera jamais une Kajira qui n'a pas de caractère. Pour lui, ce n'est pas un objet, ce n'est pas comme une chaise ou une table. Il faut qu'elle ait. Une Kajira de plaisir, hein, je parle bien. Il faut qu'elle ait du caractère. Elle le représente. Elle est lui, dans un sens. C'est un prolongement de lui-même.
Elles ont un peu d'insolence aussi, des fois.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle les soumises brates, c'est ça?
Non, pas vraiment. Non, la brate, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on va accepter du caractère d'une Kajira, mais dans une certaine limite. Quand le maître dira quelque chose, ça sera fait. Une brate va pousser le maître à. Une Kajira va éviter de trop le faire parce qu'elle sait que derrière, il y a des conséquences aux actes.
Alors, quelles sont les conséquences précisément dans l'œuvre?
Alors, dans l'œuvre, je vais laisser Opal en parler.
Je dis entre autres, c'est le fouet. Donc être attaché, légèrement suspendu dans le vide pour ne pas pouvoir bouger et être fouetté jusqu'à ce que le maître décide que la punition s'arrête. C'est des choses qu'elles ont extrêmement peur. Donc elles ne veulent pas être punies, elles ne veulent pas décevoir. Voilà, je vais prendre un peu comme ici dans la terre quand on vole quelque chose, on est puni. Ben là, c'est pareil. Donc, dans le livre que j'ai lu juste avant, donc dans le 7, elle volait des baies. Donc, elle pouvait sortir de la petite tribu, faire le tour. Elle pouvait cueillir des baies. Donc, elle était attachée à une autre esclave. Et alors, elle a volé dans le panier de sa compère des baies que les gardiens l'ont vue. Du coup, elle a été attachée, elle a été fouettée et elle a été marquée aussi, avec la marque des voleuses, la marque des menteuses, puisqu'elle après elle a dit qu'elle n'avait pas fait. Donc oui, là il y a un certain niveau où l'esclave a quand même une peur et une crainte de son maître. Tout ce qu'elles veulent vraiment, c'est le rendre heureux, l'épanouir et se sentir belle pour eux, quoi.
Il existe plusieurs niveaux, hein, de punition. Attention, là, Opal parle du fouet, mais par exemple, on va retrouver dans le roman, à un moment, une esclave qui devait ramasser des déjections d'animaux. comme elle l'a mal fait, qu'il y a eu un problème, elle s'est retrouvée la tête enfermée dans le sac. Il y a pas que les punitions physiques. Quelle est la plus grande peur d'une Kagera, y compris dans les romans, d'ailleurs, on le retrouve bien, c'est
Décevoir son maître.
décevoir son maître et être que son maître ne la punisse pas. Dans un sens, ça veut dire pour elle, bah non, bah il fait pas attention à moi.
Et dans ce que j'entends, il n'y a pas de description chez Norman de masochisme de la soumise qui cherche la faute.
Ah non, 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 pas du
Pas
tout.
du tout. Dans Gore, pour les femmes, entre guillemets, Kagera, c'est elles ne sont pas attachées plus que cela. Elles peuvent se balader, moins, quand leur maître leur permet, peuvent se balader dans la ville, elles peuvent tout ça. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas l'esclave comme on l'a dans la tête des gens. C'est plus un lien qui l'unit à quelqu'un. Un maître goréen va pas dire tous les matins à une esclave comment elle doit s'habiller, ce qu'elle doit faire et moi, ce qu'elle doit faire. Comment elle doit s'habiller, non, elle a entre guillemets une liberté. Ce n'est pas, il faut bien le remettre dans le contexte que c'est un roman et que sur Gore, pour eux, c'est normal. Vous voyez, d'ailleurs, il y a même des femmes libres qui sont jalouses des Kagera. Par un certain côté, elles ont plus de liberté que les Kagera en elles-mêmes. Une autre chose qu'il existe aussi chez Gore, que les gens oublient, dans ceux qui lisent, je parle dans les pratiquants de BDSM, c'est que les Kagera ont une journée où les rôles sont inversés. Il y a une journée dans l'année où les rôles sont inversés, où la Kagera peut faire ce qu'elle veut à son maître.
À mon maître.
Alors, c'est la première fois que j'entends parler de ça à propos de ce livre, effectivement.
Oui, les gens, parce que c'est souvent occulté, parce que très souvent, ce sont les hommes qui disent ça, et même les femmes qui disent ça, vont occulter ça, parce que pour eux, c'est un échange de procédés. Oui, dans le livre, d'ailleurs, dans Cabot, à un moment, se fait enlever par des Kagera pendant cette journée-là, et elle profite de lui. Vous voyez?
D'accord, ce qui est également un fantasme masculin assez répandu.
Voilà, on retrouve les fantasmes masculins, mais elles ont une certaine liberté. Elles sont pas entièrement libres, ce sont des esclaves, mais elles ont une certaine liberté. On retrouve un peu, je vous dis, 17e, 18e siècle, les maîtres, c'est pas eux qui allaient dire à leurs esclaves le matin comment ils devaient s'habiller, des choses comme ça. Elles avaient des tâches à accomplir, elles les accomplissaient, point à la ligne, elles le savaient.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à tout ce que vous m'avez dit?
Alors moi, je vais juste rajouter une chose, oui, c'est que pour différencier, parce que dans le monde de Gore, oui, on parle beaucoup donc de Kagera, mais les maîtres ont un respect quand même. Comment, quand ils voient une Kagera, ils savent à qui elle appartient, notamment par le collier, où c'est souvent gravé dessus, donc appartient à tel maître. Et aussi, pour les reconnaître, elles sont marquées donc justement avec le kef, donc qui est une petite lettre cursive qui ressemble à un K.
Ils peuvent en être d'autres aussi. Ils peuvent en
Oui,
être.
ils peuvent en être d'autres. Ça dépend du symbole, de l'endroit où elles se trouvent. Enfin, il y a plusieurs, mais celle qui est le plus répandue, en tout cas, c'est le K, donc le kef. Et alors, quand elles se promènent, comme mon maître l'a dit, dans les villages, dans les villes, si elles portent le collier, on sait qu'elles appartiennent à un maître et il y aura un respect. Absolument, donc ils n'iront pas chercher ou la titiller, à savoir lui faire faire des choses que le maître en lui-même n'accepterait pas.
Oui, parce qu'il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a deux façons de devenir Kagera. Se faire enlever, mais on n'enlève jamais quelqu'un de sa cité. On va enlever une femme d'une autre cité pour la faire devenir sa Kagera. Et la femme libre a parfaitement le droit de demander à le devenir elle-même.
Et j'imagine que ça arrive dans le roman de temps en temps.
Ça arrive dans le roman où la Kagera. D'ailleurs, dès le premier roman, ça arrive où la femme, parce qu'il se retrouve complètement paumée en pleine, entre guillemets, cambrousse dans la forêt et tout, comme elle sait qu'elle ne pourra pas s'en tirer toute seule, elle va demander à devenir Kagera, parce qu'une fois qu'elle va devenir Kagera, quel est le rôle du maître? C'est de la protéger. Donc, il va devoir tout faire, une fois qu'elle va devenir sa Kagera, il va devoir tout faire pour qu'elle s'en sorte.
Ce qui est là aussi un bon
Paradoxal.
fantasme masculin dans le sens où n'importe quel gentleman n'aurait pas besoin de ça pour faire son maximum, j'ai envie de dire.
Oui, mais les femmes qui veulent devenir libres, entre guillemets, il y en a certaines qui vont pas accepter. Non, je suis capable de me débrouiller toute seule. Là, elle sait que elle, puisqu'elle vient d'une cité, c'était une femme riche, elle sait qu'elle pourra pas s'en tirer toute seule. Donc, elle lui demande de devenir sa Kagera. Tout en sachant qu'une fois qu'elle va l'être, elle va avoir des responsabilités, elle aussi. Une Kagera a des devoirs envers son maître, mais son maître a aussi des devoirs envers elle. Il n'y a aucune mise à mort d'une esclave d'Angkor. Aucune. Il y a, si on lit bien, on retrouve plus une histoire de fierté de la Kagera qu'autre chose.
Alors du coup, moi, je vais vous reprendre sur une chose parce que je vous entends parler de la fierté masculine, de l'envie masculine, mais au niveau de la femme aussi, puisque dans les livres, on retrouve souvent qu'elles veulent appartenir à un beau, grand, guerrier, fort. Donc ce ne va pas que forcément dans un sens, et dans l'autre sens aussi. On voit qu'elles veulent plaire à certaines personnes, à certains types de guerriers, à certains types de marchands. Elles vont tout faire justement, par exemple, pour se faire acheter par ceux qu'elles voudraient. Donc elles vont se mettre en valeur exprès juste pour pouvoir attirer l'œil de quelqu'un. Donc ce n'est pas que masculin, c'est aussi beaucoup féminin, en tout cas de mon point de vue.
Je l'entends et j'espère que ce sera entendu aussi, d'autant que, bah, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas lu les livres, donc je pourrais difficilement me faire un avis, mais au regard de ce que vous me dites, c'est vrai que de temps en temps, ça me fait sourire. Bon, en même temps, on retrouve le roman de Gare, hein, c'était clairement l'objectif.
Mais totalement, c'est vraiment de l'heroic fantasy, on va retrouver des bestioles, on va retrouver tout un univers. Mais oui, c'est un roman de guerre et oui, on retrouve entre guillemets la femme esclave. Mais ce n'y a pas qu'elle, hein, voilà. On parlait de fierté. Opal et donc Macajira, maintenant depuis 2 ans, on vit ensemble, H24, tous les deux. Mais on va retrouver ça aussi dans la façon d'être d'Opal. Opal va aimer vouloir me plaire. C'est pas moi qui lui impose, c'est d'elle-même, elle va vouloir lui. Elle va avoir ce besoin de plaire, de me plaire. Elle va avoir besoin de me représenter. Elle va avoir besoin de me montrer du respect. C'est pas moi qui, entre guillemets, qui lui impose cela. C'est aussi un besoin qui vient d'elle.
Et ce partout, pas forcément qu'à la maison. Hein. Donc c'est vraiment dehors, même au travail, soit n'importe où, c'est voilà.
Mais il ne faut pas se dire que parce qu'elle me montre du respect, qu'elle se rabaisse devant moi. Ça n'a rien à voir.
Non, pas du tout.
C'est votre style de vie.
C'est notre style de vie. Ça ne veut pas dire que bah, Opal va se mettre à genoux devant moi à tout moment. Que... Non, c'est vraiment la façon d'être qui compte. Quelqu'un à l'extérieur ne va pas s'en rendre compte. Opal, pour tout le monde, bah, c'est ma femme, c'est ma compagne, c'est ma moitié. Mais dans notre façon de vivre, c'est aussi ma moitié. Même si je suis son maître, c'est ma moitié. Moi, mon but, c'est de l'épanouir, de la rendre heureuse. Ce n'est pas de la rabaisser, de l'humilier bêtement.
En tout cas, on sent que vous avez trouvé dans ce livre une résonance à la façon dont vous voulez mener votre vie, en fait, hein, à votre style de vie.
Tout à fait.
Totalement.
Moi, je suis fière d'être sa cagère.
Et moi, je suis fier qu'elle le soit. C'est tout bête, c'est.
J'allais pas dire c'est tout bête, vous êtes mignons tous les deux.
Merci.
Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose?
Pour les gens qui aiment le heroic fantasy, je leur conseille Gore, mais il ne faut pas s'arrêter à la Kagira, à l'esclavage et tout. Il faut vraiment le lire complètement. C'est vraiment de l'heroic fantasy, entre guillemets, à l'ancienne, hein, dans les années 60. Hein, ce n'est pas la même façon d'écrire que maintenant. Mais voilà, c'est les gens qui aiment ça, allez-y, hein, allez-y. Hein. Ce sont des livres qui sont faciles à lire, mais il ne faut pas s'arrêter au BDSM, mais ce n'est pas parce qu'on lit Gore qu'on doit s'intéresser à cela.
Il faut
Non.
se projeter à travers les personnages.
Bon, c'est une histoire, il faut pas le prendre au pied de la lettre, en fait. C'est ça que vous me dites.
Mais il y a des choses qui sont impossibles à réaliser sur la Terre même. Une Kagira est souvent dans son plus simple appareil ou avec juste un kamisk, donc est un bout de tissu juste pour cacher certaines parties. Je me vois mal, malheureusement, je me vois mal me promener comme cela dehors.
Bah, c'est-à-dire qu'il fait un peu frais en ce moment, hein.
Oui, surtout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont littéralement impossibles à reproduire sur la Terre en elle-même. Le marquage au fer, oui, il y a certaines personnes qui le font, mais par exemple, je sais qu'il y a certains vices, ces vices, pardon, qui ne peuvent pas être effectués dans certaines villes en France. J'ai lu ça il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, il y a une limite aussi qu'on ne peut pas malheureusement reproduire sur la Terre, malheureusement pour moi. Voilà, donc oui, il faut quand même bien remettre ça dans son contexte, qu'on a quand même des lois, qu'on a quand même un mode de vie à vivre. Je me vois mal arriver au travail, donc je suis aide cuisine, je me vois mal arriver au travail nue en disant, oui, voilà, je fais la plonge aujourd'hui, ou je vais couper des légumes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, oui, il y a.
Et puis, oui, je vous dis, c'est vraiment des romans, moi je les conseille à lire, même par des gens qui aiment l'heroic fantasy tout court, hein. Il faut pas voir le côté BDSM dans le roman. C'est entre guillemets, c'est annexe, c'est un développement. Hein. Il n'a pas écrit ça pour être BDSM ou pour être pour parler d'esclavage. Quand il a écrit, il a vu que les gens évoluaient là-dedans. Bon, bah, il a développé, mais ce n'est pas écrit pour cela à l'origine. C'est pas du tout un roman érotique. Hein. C'est pas du tout. Ce sont pas des romans pour rabaisser entre guillemets la femme. C'est un monde qu'il développe peu à peu dans ses livres. Tout simplement, un livre d'heroic fantasy, on va retrouver des êtres fantastiques, on va retrouver, ben, vous avez parlé des prêtres-rois, on va retrouver des animaux exotiques, on va retrouver une façon d'être exotique. Mais voilà, c'est vraiment un truc pour se projeter dedans. Ce sont des romans de guerre à l'origine, ce n'est pas du tout ni érotique ni porno. Voilà. Après, ça a été développé par une certaine catégorie dans le BDSM qu'on appelle les goréens, oui. Mais voilà, et contrairement à ce que beaucoup pensent, une cagéra, ce n'est pas quelqu'un qui va dire oui à tout.
Donc ce podcast bah, touche maintenant à sa fin. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Je n'aurais pas pu le réaliser sans vous, tout bonnement.
Ben, nous vous remercions de nous avoir permis de parler de ça, là.
Avec grand plaisir.
Bah, c'était un plaisir partagé. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stivaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.